Vous écoutez, on lit pour vous.
Culture trad, d'une génération à l'autre. Un texte de Brigitte Bruno paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage. La culture trad au Québec, c'est l'histoire d'un flambeau qui se passe d'une génération à l'autre. Depuis toujours, les passeurs de tradition, par l'oralité ou la relation maître-apprenti, forment la relève. Cap sur la transmission d'un patrimoine plus vivant que jamais. Au fil des décennies, le maître accordéoniste Reynald Ouellet est devenu l'un des plus grands bâtisseurs et ambassadeurs du milieu de la musique traditionnelle québécoise. Membre du groupe Héritage, il a joué au Canada, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique. Ce parcours exceptionnel a toutefois débuté modestement, dans la région de Montmagny. C'est là qu'il a appris de façon informelle les rudiments de son instrument, alors qu'il visitait ses oncles maternels. Avant l'arrivée de la télé, c'était la plus belle façon de se désennuyer, se remémore le virtuose. Tout le monde apprenait à l'oreille, par essai et erreur. On développait notre mémoire musicale. Cet apprentissage s'est poursuivi ainsi en écoutant et en observant. En exemple, il évoque ces gens en ville qui jouaient des mélodies sur leur balcon, ainsi que ces accordéonistes et violoneux que son grand-père engageait pour animer les fêtes à la maison, surtout lorsque les visites venaient des États. L'élargissement de son répertoire s'est ensuite fait grâce à la rencontre de grands accordéonistes québécois comme Yves Verret, Philippe Bruno et Marcel Messervier. Un vent de renouveau. Puis est venu son tour de léguer l'héritage. D'abord en enseignant à un élève à la fois chez lui, puis à de petits groupes à l'École internationale de musique de Montmagny, dont il a été l'un des fondateurs. Reynald Ouellet estime avoir transmis ses connaissances à plus d'une centaine de personnes, de tout âge. Parmi elles, Alexandre Patry. Ce jeune homme avait 3 ans quand il a découvert l'accordéon. « Je produisais des sons et du vent », raconte-t-il. À 6 ans, il jouait son premier morceau grâce à l'écoute assidue d'un lecteur cassette et aux enseignements de son père. Et puis, à 10 ans, il devenait l'élève de Reynald Ouellet. Alexandre a maintenant 18 ans et fraye son propre chemin dans le monde de la musique trad. En plus de se produire au carrefour mondial de l'accordéon, il reçoit de plus en plus d'offres pour jouer dans les veillées. Il vient aussi de succéder à son ancien prof pour enseigner l'accordéon à l'école de musique. « La marche était haute », concède le musicien. « J'ai 7 élèves âgés de 6 à 60 ans. Aucun n'est issu d'une famille d'accordéonistes et en une semaine, s'ils pratiquent à la maison, ils peuvent jouer un premier morceau simple. » Des disciplines qui ont la cote. Selon Antoine Gauthier, directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, CQPV, le milieu de la musique traditionnelle connaît un essor important depuis une décennie. « Il y a 10 à 15 ans, explique-t-il, les veillées de danse publique, organisées et récurrentes, existaient surtout à Montréal et à Québec. Il y en a beaucoup plus maintenant. » Pour s'en convaincre, il suffit de consulter la carte interactive publiée sur le site du CQPV. Des veillées de danse folklorique se déroulent à l'année, de Gatineau à Gaspé. Du côté des peuples autochtones, la transmission du patrimoine est tout aussi bouillonnante. Pensons au maître Charles Happy Bellefleur, porteur de la tradition Innu, qui raconte aux plus jeunes les légendes de sa nation dans sa langue natale, l'Innu Emun, et ce, accompagné de son tambour sacré, le Tehuekan. Des actions structurantes visent par ailleurs à pérenniser la passation du savoir. L'émergence de festivals dédiés à la musique folklorique en est un exemple. La diffusion des modules TRAD 666, qui permettent aux enseignants du secondaire d'intégrer la musique traditionnelle québécoise dans les cours qu'ils donnent à leurs élèves, en est un autre. Et c'est sans compter le nouveau magazine Culture Trad Québec, une publication au design moderne qui cherche à plaire à un public jeune et branché. On a besoin d'aide. Normand Legault en connaît beaucoup sur la culture trad. On ne danse pas les mêmes types de danse dans la région de Québec qu'en Outaouais, explique-t-il au sujet des nombreuses nuances régionales qui existent dans la province. À partir des années 1970, cet ethnologue partage ses connaissances dans les festivals, soirées de danse et ateliers de formation, parfois à des centaines de personnes. Selon lui, la relève est là, les mentors aussi. Il cite en exemple les nombreux camps estivaux de danse traditionnelle qui rassemblent parents, grands-parents et petits-enfants. Il ne nous reste maintenant qu'à soutenir financièrement les organismes qui chapeautent les activités. Qu'il soit question de danse, de formation ou de festival, commente-t-il au sujet de l'avenir du patrimoine vivant. Il faudra nous équiper aussi. On a besoin de systèmes audio, de salles assez grandes et ventilées pour accueillir 150 à 200 personnes, de beaux planchers qu'on aura le droit de marquer de nos souliers. Le temps des pelouses croches sur lesquelles on posait des feuilles de plywood est terminé. Et pourquoi ne pas inviter ces porteurs de tradition dans les grands festivals? Pourquoi ne pas les diffuser sur les chaînes radio et pas seulement le 31 décembre? La flamme du trad est donc bien vivante. Avec un peu plus d'oxygène, elle pourrait se transformer en feu ardent. En savoir plus. Pour trouver une veillée de danse, connaître les maîtres de tradition vivante ou encore lire le magazine Culture Trad Québec, allez au patrimoinevivant.qc.ca. C'était Culture Trad, d'une génération à l'autre, un texte de Brigitte Bruno paru le 1er mars 2024 dans le magazine Virage.
L'intelligence artificielle s'invite à table. Un texte de Véronique Leduc, paru le 12 mars 2024 dans le magazine Avenue.ca. Je suis peut-être vieux jeu, mais entre vous et moi, l'intelligence artificielle, dont on entend de plus en plus parler, me fait peur. Elle aura certainement ses conséquences, bonnes et moins bonnes, sur toutes les sphères de notre vie, et le domaine de l'alimentation n'y échappera pas. Que ce soit dans le milieu artistique, où l'on peut sur une chanson remplacer la voix d'une personne par celle d'une autre, dans le secteur touristique, où de plus en plus de voyageurs se fient à l'intelligence artificielle pour planifier leurs escapades, dans le domaine de la beauté, où une machine peut faire une manucure parfaite en quelques minutes, ou dans celui du jeu, où l'ordinateur bat l'humain depuis déjà quelques années, l'intelligence artificielle, ou l'IA, modifiera bientôt notre quotidien. Manger intelligemment. L'IA est ressortie comme une des tendances alimentaires fortes à surveiller en 2024. Depuis que j'ai effleuré le sujet en début d'année, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce que cette nouvelle intelligence prévoit apporter dans le domaine qui est le mien. Selon les experts, plusieurs sphères du secteur pourraient être touchées et même si les services offerts n'en seraient encore qu'à leur balbutiement, nous assistons au début d'une petite révolution, croit Guillaume Mathieu, stratège en gestion de marques agroalimentaires qui s'intéresse de près à l'intelligence artificielle. Ce dernier donne en exemple ChatGPT, qui peut créer une recette optimisée en pigeant dans toutes les recettes trouvées sur le web. D'ailleurs, en réaction à cette menace qu'il a voulu transformer en opportunité, Ricardo a lancé l'an dernier Mon Ricardo Plus, qui propose à ses abonnés d'obtenir des recommandations personnalisées, de regrouper leurs recettes préférées, de créer des menus et une liste d'épiceries. L'IA peut aussi aider à diminuer le gaspillage alimentaire. Par exemple, en Abitibi, un entrepreneur a créé Chef Touski, un outil vide-frigo qui propose des recettes avec les aliments en fin de vie que l'on souhaite cuisiner. Aussi, dans cette idée de diminuer le gaspillage, Sylvain Charlebois, directeur scientifique du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l'Université Dalhousie à Halifax, affirme qu'il deviendra possible d'accéder à la maison à plus de données sur la durée de conservation des aliments. Une information qui empêcherait de jeter des denrées en ne se fiant qu'à la date de péremption, trop générale. Le professeur croit aussi que l'IA pourrait permettre aux consommateurs de créer un menu en fonction de ce qui est abordable à l'épicerie avant de partir faire ses courses. Toujours selon lui, les épiciers devront alors s'adapter en proposant des politiques de prix plus dynamiques. On parle aussi d'une facilité accrue chez les entreprises qui travaillent à créer de nouveaux produits. Entre autres, le géant agroalimentaire McCormick œuvre depuis quelques années déjà avec l'IA pour le développement d'arômes. Parmi les nombreuses alternatives végétariennes à la viande, plusieurs sont élaborées grâce à l'IA qui permet de recréer le goût du bœuf grillé. Récemment, Coca-Cola s'y est mise aussi en créant une nouvelle citation arôme futuriste co-créé avec l'intelligence humaine et artificielle. Fin de citation. D'ailleurs, la recherche liée aux odeurs et aux arômes en lien avec l'IA avance à vitesse grand V depuis quelque temps, ce qui pourra certainement accélérer le développement de nouveaux produits alimentaires. Dans le secteur de l'agriculture, les algorithmes de l'IA épaulent déjà les agriculteurs dans leurs analyses de sol, du climat et des cultures afin d'optimiser les rendements. Depuis l'an dernier, dans certains restaurants Saint-Hubert de la province, des robots aident au service et portent les assiettes aux tables en fredonnant, ce qui ne manque pas d'attirer l'attention des clients. En 2022, le premier livre de cuisine entièrement créé, recettes et visuels, par l'intelligence artificielle a été publié. Et il n'est certainement pas le dernier. D'ailleurs, je partage à Montréal un grand bureau avec des photographes qui œuvrent dans le milieu de l'alimentation. Et sur nos heures de lunch, cela fait quelquefois que la discussion revient. Est-ce que leurs photos, qui se retrouvent dans les livres et magazines de recettes, seront bientôt remplacées par celles créées par un ordinateur qui peut générer des images à la demande et à moindre coût? Ils ne le cachent pas, ça leur fait peur, et ils surveillent les évolutions dans ce domaine. Ne voilà que quelques exemples de ce que l'intelligence artificielle pourra éventuellement faire dans le domaine de l'alimentation. Trouver l'équilibre. Ce qui m'inquiète à propos de l'IA, c'est quand la technologie se prend pour un humain en créant des œuvres d'art, en simulant des émotions ou, comme le soulève mon collègue Jean-Benoît Nadeau, en se rendant à un point où même les créateurs n'en comprennent plus le fonctionnement. Oui, à l'IA pour diminuer le gaspillage alimentaire, donc, pour aider à économiser, pour épauler les agriculteurs et pour alléger les serveurs et serveuses qui souffrent de maux physiques. Mais là où l'intelligence artificielle devrait s'arrêter, selon moi, c'est quand elle cherche à remplacer la créativité humaine. Je préférerai toujours les nouveaux produits et les recettes imaginées et goûtées par un humain, tout comme les photos issues de la sensibilité d'une personne et de son vécu. Simplement parce que ces produits, recettes et photos racontent une histoire. C'est d'ailleurs une des raisons évoquées pour expliquer que l'IA fasse plus lentement sa place dans le secteur alimentaire que dans d'autres. Citation. Les entreprises alimentaires ont toujours été prises dans cette symétrie capricieuse entre tradition, culture et technologie. Fin de citation, estime le professeur Sylvain Charlebois, selon qui l'utilisation des nouvelles technologies ne doit pas se faire au détriment de ce que représente l'alimentation pour les consommateurs et les sociétés. Après tout, l'alimentation fait appel à des aspects créatifs, aux souvenirs et aux émotions humaines, sollicite les sens et permet de rapprocher et rassembler. Tout ce qui fait que l'humain se différencie de la machine. Tout ce qu'il ne faut pas perdre. C'était « L'intelligence artificielle s'invite à table », un texte de Véronique Leduc, paru le 12 mars 2024 dans le magazine Avenue.ca.
Les villes contre-attaquent. Un texte d'Ariane Kroll, paru le 25 février 2024 dans la presse. Des vidéos pour prévenir l'incivilité. Une vidéo a été tournée pour sensibiliser les citoyens de Magog. On y voit un citoyen de Magog furieux du remblai laissé par une déneigeuse devant son entrée qui lance sa pelle en direction du conducteur de l'engin. La situation, heureusement, ne dégénère pas. Il s'agit en fait d'une vidéo maison tournée mardi le 20 février 2024 où les employés municipaux jouent tous les rôles afin de sensibiliser les citoyens aux limites à ne pas dépasser. On m'a confirmé que ce genre d'événement arrive très fréquemment en saison hivernale, nous répond une porte-parole de la municipalité estrienne, Claudia Fortin. D'autres scènes où un fonctionnaire municipal se fait crier dessus en remettant une contravention ou en répondant au téléphone ont aussi été filmées. La ville prévoit diffuser ces vidéos sur ses réseaux sociaux. C'est la deuxième fois que Magog tourne ce genre de petites vidéos amateurs. La première série, à l'été 2022, montrait des signaleurs routiers enguirlandés et menacés de collision par des automobilistes. L'effet est difficile à comptabiliser, reconnaît Mme Fortin, mais on nous dit que ça semblait être moins problématique depuis la diffusion de la campagne vidéo. Les « c'est pas fin ». Magog n'est pas la seule ville à miser sur les vidéos loufoques pour sensibiliser ses citoyens. En janvier 2024, Saint-Colomban a diffusé une vidéo dans laquelle son maire, Xavier-Antoine Lalande, lit et commente des messages disgracieux publiés sur la page Facebook de sa municipalité des Laurentides. Beaucoup de boomers, merdes humaines, dans ce village de Cossanguin, déchiffre M. Lalande à l'écran. C'est pas fin. Moi, j'ai beaucoup de famille ici quand même, mais j'ai pas fait le choix de marier ma cousine, ironise le maire. Saint-Colomban s'est inspiré des mean tweets lus par les vedettes ciblées par des commentaires haineux, comme on en voit dans l'émission américaine Jimmy Kimmel Live. Repentigny et Mirabel ont repris la formule, baptisée les C'est pas fin. Le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau, s'y montre particulièrement grinçant à l'égard de la langue des auteurs pour qui « les travaux publics, ça vaut pas grand-chose ». Pourquoi les sites porno sont bloqués à la bibliothèque? Je paye des taxes, lit le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, accompagné d'un bruit de criquet. Ben, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, conclut-il hilar. Il y a d'autres villes qui s'en viennent avec notre concept, s'est réjoui M. Lalande, au sortir d'une réunion du Conseil de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, il y a une dizaine de jours. Avis et constat. Beaucoup de municipalités observent une hausse des gestes d'hostilité envers leurs employés et demandent à ceux-ci de les signaler. C'est ce que fait Magog depuis la fin de 2022. Entre novembre 2022 et janvier 2024, ce sont 20 cas d'incivilité qui ont été rapportés. Il y en a probablement eu plus, dit Mme Fortin, en précisant qu'il s'agit surtout d'agressions verbales, cris, insultes, propos injurieux ou discriminatoires. À chacun de ces 20 citoyens, la ville a envoyé une lettre résumant l'événement. Le directeur général est même allé en porter une en main propre à un commerçant. Jusqu'ici, personne n'a récidivé. À Trois-Rivières, la direction des services juridiques a remis 4 avis et 2 constats d'infraction l'an dernier. Et, juste depuis le mois de janvier, la ville a eu 3 courriels qui étaient d'une vulgarité et d'une violence sans nom, nous a indiqué le directeur des services juridiques, maître Alex Hamelin, à la mi-février 2024. En 17 ans à la ville, maître Hamelin n'avait jamais rien vu de tel. On a toujours eu des gens qui peuvent être malpolis ou violents, mais à un niveau si élevé de fréquence et de vulgarité, c'est particulier, dit-il. La cour municipale a récemment mis à l'amende un citoyen qui avait tenu des propos extrêmement misogynes à une évaluatrice municipale. On pourrait négocier avec un combat dans la boîte, les femmes, vous êtes bonnes là-dedans, avait-il notamment proposé. Même si pour le citoyen, il s'agissait de blagues, ce qu'il faut analyser, ce sont les paroles en soi et le contexte dans lequel elles sont prononcées, a indiqué le juge dans une décision orale citée par Maître Hamelin. Des fonctionnaires trifluviens ont aussi reçu des menaces de mort à deux reprises au cours des dernières années. Le premier accusé a plaidé coupable et reçu une absolution conditionnelle en 2017. Le second est en attente de son procès. Les policiers ne sont pas toujours appelés pour des cas aussi dramatiques. Avant Noël, un citoyen est venu porter ses ordures directement à l'hôtel de ville, raconte le maire de Saint-Colomban. Les sacs contenaient des informations personnelles, donc ça a été facile de retrouver son adresse. On s'est assuré de les lui renvoyer avec le service de police. Comme beaucoup de municipalités, Saint-Colomban s'est doté d'une politique de tolérance zéro. L'amende peut atteindre 273 $ avec les frais, mais seulement 5 constats ont été remis en un peu plus de 5 ans. Les cas mineurs, on les laisse faire, mais on s'est quand même donné le moyen pour le jour où on considérait que la ligne était dépassée. Un inspecteur municipal, simplement arrêté à une intersection dans un véhicule de la ville, s'est déjà fait invectiver par le chauffeur d'une camionnette, disant qu'il était pour le viser comme un chevreuil. Il n'y a pas eu de plainte. Ce sont des cas d'exception, souligne le maire, comme tous les intervenants municipaux à qui nous avons parlé. Mais comme plusieurs, M. Lalande constate un niveau d'intolérance, de fatigue, d'agressivité qu'il n'avait pas vu depuis ses débuts en politique en 2013. Les villes, comme tous les employeurs, sont tenues de fournir un milieu de travail exempt de violence. Une sortie publique suffit parfois à calmer les esprits. En août 2023, la mairesse de Saint-Urbain, dans Charlevoix, a annoncé que les demandes présentant des caractéristiques d'incivilité ne seraient plus traitées. Depuis, j'ai trop d'une main pour calculer le nombre de fois où on a demandé poliment aux gens de nous rappeler quand ils seraient moins fâchés, résume le directeur général Martin Guérin. Même son cloche à Amherst, dans les Laurentides, où un citoyen violent s'expose à des mesures allant d'un avertissement à une plainte à la police. Depuis l'annonce de cette politique en août 2021, un seul avertissement écrit a été remis, témoigne le directeur général Martin Léger. Un retour d'une certaine agressivité, principalement au téléphone, un peu au comptoir, a toutefois donné lieu à un rappel récent sur Facebook. Un citoyen en a profité pour décrier la fille qui est au comptoir, sic, et le déneigement, pas sa coche, sic. Nous allons laisser le commentaire pendant encore quelques jours afin de montrer à ceux qui ont appuyé la démarche de quoi nous parlons exactement. L'exemple est plutôt éloquent, nous a indiqué le DG. C'était « Les villes contre-attaquent », un texte d'Ariane Kroll paru le 25 février 2024 dans La Presse.
Tout savoir sur la musique en ligne, un texte de Maxime Johnson paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage. Vous pouvez encore acheter des CD en magasin et même des disques vinyles, mais la musique en ligne a bouleversé les habitudes des mélomanes. Voici comment en profiter. Les services de musique par abonnement. Spotify et Apple Music sont les deux plateformes les plus complètes pour écouter de la musique en ligne. Vous n'avez qu'à taper le nom d'un artiste, d'une chanson, d'un album ou d'un style pour faire jouer ce dont vous avez envie. Pour profiter de ces services de diffusion, vous devrez payer un forfait mensuel, $10.99 dans les deux cas, vous permettant d'accéder aux chansons offertes, avec une bonne qualité et sans publicité. C'est l'équivalent d'avoir des millions de CD à la maison, tous accessibles en un seul clic. Le bémol, Si vous arrêtez de payer votre forfait, vous perdez l'accès à cette musique. Les deux options se valent, mais Apple Music se démarque un peu plus sur les iPhone et iPad, où l'application est installée par défaut. Spotify a pour sa part l'avantage pour celles et ceux qui veulent écouter la musique à partir d'un navigateur web sur un ordinateur. Spotify offre aussi une version gratuite, mais celle-ci impose des publicités et limite votre écoute à des listes de lecture. Bref, aussi bien trouver un poste de radio que vous aimez. La musique à la pièce. Vous pouvez aussi acheter les versions numériques d'albums ou de chansons. Une fois l'album acheté, il est à vous, et vous n'avez plus besoin de payer quoi que ce soit. La meilleure boutique pour acheter la musique est iTunes d'Apple. Accédez au apple.com iTunes, apple.com/itunes, pour télécharger l'application qui permet à la fois d'acheter et d'écouter la musique. Attendez-vous à payer 99 sous par chanson ou 9,99 $ par album. Fait à considérer, les artistes sont mieux rémunérés si vous achetez leurs albums numériques à l'unité que si vous écoutez leur musique sur les plateformes de diffusion comme Spotify. La radio en ligne. Si c'est la radio qui vous intéresse, notez que chaque station de radio permet d'écouter ses émissions en direct sur son site web. Des agrégateurs comme TuneIn rassemblent quant à eux des milliers de stations de partout dans le monde, à une même adresse web, tunein.com, tunein.com, ou avec une application mobile. Comment écouter la musique en ligne? Que vous écoutiez votre musique sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur, équipez-vous d'une enceinte audio pour profiter d'une meilleure qualité sonore. Vos oreilles le méritent. Considérez par exemple l'achat d'un haut-parleur Bluetooth. Il y en a pour tous les budgets, ou d'un haut-parleur Wi-Fi, qui est généralement plus long à installer, mais qui est plus efficace par la suite. Optez pour des modèles Sono si vous voulez faire jouer de la musique partout dans la maison, ou encore pour un haut-parleur compatible avec AirPlay, iOS, ou Chromecast, Android, si vous ne voulez qu'un seul appareil. C'était « Tout savoir sur la musique en ligne », un texte de Maxime Johnson paru le 16 février 2024 dans le magazine Virage.